Tout de suite.
État et civil
sur LFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Boraski, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours bien sur LFM, sur le 95.5 FM. Il est 11h et comme tous les mercredis, c'est l'heure d'État et civil, l'émission qui donne la parole aussi bien à l'État, aux collectivités, mais aussi aux citoyens pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Aujourd'hui, dans l'émission État et civil, on va parler de la MPF, Maison de protection des familles. Elle était la première de France à ouvrir ses portes en octobre 2020 à Bois-d'Arcy, dans les Yvelines. La Maison de protection des familles est un lieu d'accueil adapté aux plus jeunes. Objectif, les aider à libérer leurs paroles concernant de la maltraitance, du harcèlement ou des délits criminels. Pour en parler, j'ai pu me rendre directement sur place à Bois-d'Arcy pour y rencontrer l'adjudante-chef Virginie Reduro, qui reçoit justement avec toute son équipe les mineurs pour les accompagner, mais également les auditionner. On écoute cela comme d'habitude en première partie, mais aussi en deuxième partie. On se retrouve juste après cette première partie pour marquer la pause musicale. A tout de suite.
LFM 95.5.
Adjudant chef Roduro, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ici dans vos locaux. Première question pour nos auditeurs qui ne sont pas présents ici. Où est-ce qu'on se trouve ?
Alors là, vous vous trouvez à la Maison de protection des familles de Bois-d'Arcy. C'est une unité de gendarmerie qui gère plusieurs publics vulnérables et qui œuvre sur le département des Yvelines pour la zone de gendarmerie.
D'accord. Sur la naissance de l'établissement ?
Il a été ouvert en octobre 2020. Ça a été la première maison de protection des familles de France qui a été inaugurée par Madame Marlène Schiappa. Et du coup, depuis le 1er janvier 2021, ces maisons de protection des familles se sont dupliquées sur le territoire national et outre-mer. À l'heure actuelle, il me semble qu'il y en a 54. Et à terme, tous les départements du territoire français, national ou outre-mer seront dotés d'une maison de protection des familles.
Alors on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur les missions de cette maison de protection des familles.
Oui. Alors nous avons trois missions principales qui sont l'appui aux unités des brigades de gendarmerie. Nous avons dans notre équipe des personnels qui sont experts dans certains domaines et complémentaires, que ce soit sur les violences intrafamiliales, sur les mineurs, dans les seniors ou les personnes en situation de handicap. Et donc la mission, c'est d'appuyer nos brigades de gendarmerie du département sur les expertises que l'on a, sur ces publics-là, lorsqu'ils ont des enquêtes, lorsqu'ils font des interventions et qu'ils ont besoin d'avoir des connaissances ou un appui plus judiciaire sur certains dossiers sensibles. Ensuite, nous sommes le point d'entrée unique du département pour tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. C'est-à-dire que nous, on a une dimension départementale. Donc que ça soit le tribunal judiciaire, la préfecture, les associations d'aide aux victimes, voilà, tous les partenaires avec qui on œuvre au quotidien, on est vraiment le point d'entrée de la gendarmerie. S'il y a une question, une demande d'intervention ou quoi que ce soit, ça passe par nous. Et suivant la demande, et si on peut répondre aux besoins, c'est la MPF, donc Maison de protection des familles, qui prend à charge le dossier. Sinon, on déploie au niveau de l'unité, si ça dépend d'un côté beaucoup plus local. Et enfin, nous sommes un outil de coordination en termes de bonnes pratiques, c'est-à-dire que des bonnes pratiques sur, que ce soit sur l'accueil ou la prise en charge des victimes qui pourraient être mises en œuvre sur un autre département, par exemple. On va le tester chez nous, voir si c'est efficace, si ça apporte vraiment une plus-value, et si c'est le cas, on le déploie. Sur des initiatives aussi locales de nos gendarmes en brigade, on va reprendre aussi l'idée et la dupliquer et voir si effectivement ça peut servir à toutes les unités.
D'accord. Sur les violences intrafamiliales,
oui.
Qui sont les victimes en général ?
Alors, si malheureusement les chiffres sont le reflet de la réalité, ce sont principalement les femmes qui sont touchées par ces faits-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes aussi. Les chiffres sont moindres, en tout cas c'est ce que nous on sait, ce que l'on connaît, ce qui est dit aux forces de l'ordre en tout cas, ou aux associations. Il ne faut pas oublier aussi toutes les victimes qui ne disent rien, qui ne sont pas connues ni de la justice, ni des associations, mais majoritairement, plus de 80%, ce sont les femmes, bien
alors,
évidemment.
On est LFM Radio, la plus féminine des radios, on parlera juste après des messieurs. La parole des femmes, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de primordial pour avancer dans cette lutte-là.
Oui, parce que sans libération de la parole, on peut moins les aider, bien évidemment. Si elles ne nous disent pas entièrement et de façon assez complète, et c'est compliqué, on le sait, ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent, bah forcément, c'est compliqué pour nous, on ne vit pas à l'intérieur de leur foyer, on n'est pas là au quotidien, voir ce qu'elles subissent, donc c'est leur parole. C'est leur parole qui fait qu'on pourra qualifier telle ou telle infraction, c'est leur parole qui pourront nous permettre de mettre en avant certaines actions, certains accompagnements. Aujourd'hui, la libération de la parole, elle est essentielle dans le parcours de la victime.
Là, on est à Bois d'Arcy.
Oui.
Pourquoi avoir installé cet établissement ici? C'est pour quelque chose en particulier ou...
Alors, historiquement, c'est une unité qui existait auparavant sur un tout autre volet. Et c'était le transfèrement judiciaire. Et cette unité a été dissoute. Et du coup, les locaux étaient disponibles. Et comme on était en pleine création des MPF, et qu'on est sur un point central au niveau du département, au niveau des voies d'accès, on est vraiment au cœur du département, c'était aussi plus facile de pouvoir accéder un peu partout, puisqu'on agit sur l'ensemble du département des Yvelines pour la zone gendarmerie, soit 80% du territoire.
D'accord. 13 octobre 2020, du coup, l'inauguration avec Madame Marlène Schiappa. Bon, là, en ce moment, l'actualité est tournée tout naturellement sur l'Ukraine, ce qui se passe en ce moment. Il y a eu la Covid, notamment avec les confinements.
Oui.
Vos activités durant la crise sanitaire, elles ont été impactées fortement, j'imagine?
Oui, comme tout le monde. Du jour au lendemain, tout a été mis à l'arrêt, que ce soit pour la population, même les professionnels. Il a fallu se réarticuler, se réinventer, savoir comment on pouvait toujours aller au plus près des publics les plus vulnérables, sans pour autant pouvoir entrer en contact. Puisque ben voilà, il y avait le couvre-feu, il y avait les interdictions de sortir dehors, enfin, c'était très compliqué, même pour nous. Et du coup, on a mis en avant notre faculté de la gendarmerie de pouvoir se réinventer, et on a créé plusieurs outils de communication pour justement pouvoir délivrer encore nos messages et dire surtout à ces femmes, à ces victimes, qu'on était toujours là et qu'on pensait aussi à elles et qu'on était toujours présent en cas de besoin. Concrètement, ça s'est matérialisé par différents supports. On a fait imprimer des sachets de pharmacie avec les numéros d'urgence, le 3919, Arrêtons les violences, le 119 aussi pour l'enfance en danger, qu'on a fait acheminer dans toutes les officines du département zone compétence gendarmerie. On a fait aussi des messages sur les tickets de caisse Intermarché et Super U, avec un message de prévention. L'idée était que seuls les commerces de bouche et les pharmacies restaient ouvertes, et c'est les seuls endroits où les personnes pouvaient se déplacer. Donc on a inséré nos messages de prévention dans ces commerces-là, avec des supports que l'on donne. C'est-à-dire, c'est pas un flyer qu'on va prendre de nous-mêmes, on va s'en saisir, c'est quelque chose qu'on nous impose. Le sachet de pharmacie, on met le pharmacien un médicament dedans, on se foire avec le sachet. C'est quelque chose qu'on ramène chez soi, même si on n'a pas voulu du message, il est là. Donc ça, c'était important. Et le ticket de caisse, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on récupère à la fin de ses courses, et le message est dessus, et même si madame rentre au domicile avec son sachet de pharmacie ou son ticket de caisse avec le message dessus, c'est indépendamment de sa volonté, ça a été, c'est quelque chose qui est délivré. Donc ça, pour nous, c'était important, vraiment.
Pas en termes de chiffres, mais sur cette période-là, vous avez vu une forte hausse, une forte demande d'aide et d'accompagnement?
Oui, on a mis en place aussi quand même du phoning. En fait, on a recontacté toutes les victimes que nous, on connaissait donc d'un point de vue judiciaire, justement pour savoir un petit peu comment ça se passait, ce confinement, parce qu'on sait que ça aurait pu à ce moment-là avoir des impacts importants du fait de la proximité avec l'auteur et l'enfermement avec l'auteur aussi. Donc oui, on l'a vu après cette tendance, pas à ce moment-là, parce que les répercussions ont été vues après. On a eu différents phénomènes. Bien évidemment, les victimes déjà entre guillemets connus, j'aime pas trop dire ça, ce terme, mais qui vivaient déjà avec leur bourreau, bah forcément c'était compliqué. Et on a eu un autre phénomène de couples qui, jusque-là, n'étaient pas connus pour des faits de violence, mais du fait de la proximité, du fait du vivre ensemble H24, eh bien c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que les couples connaissent, chacun va à son travail, chacun va à ses activités sportives, culturelles, etc., et se retrouvent le soir ou le week-end pour le bon, et là du coup c'était vivre ensemble tout le temps, avec les particularités de caractère de chacun, et qui font que ça a pu parfois exploser en violence, surtout verbale et voire physique, pour les cas les plus graves.
Alors là, on parle des adultes, on parlera des enfants également un peu plus tard. Là, on parle des actions du coup de la MPF à l'extérieur de vos locaux. Oui. Là, on est au sein de vos locaux. Comment ça se passe, un accompagnement dans votre sein ici directement?
Alors, nous, la MPF, on n'est pas une gendarmerie qui recevons directement les plaintes. Nous, on travaille à profit des unités de gendarmerie locales ou des partenaires extérieurs. Concrètement, tous les jours, on a les événements qui se sont passés sur le département, que ce soit la journée ou la nuit. Et on va éplucher en fait cette synthèse, hein, concrètement, et pour voir un peu les faits qui se sont produits. Et on prend contact avec les unités de gendarmerie locales qui sont soit intervenues ou ont pris des plaintes. On propose un accompagnement sur ces victimes. Alors un accompagnement surtout social. On travaille avec des intervenantes sociales en gendarmerie. On a la chance d'en avoir deux ici à Bois d'Arcy. Donc sur le volet social qui est large, hein, c'est le retour à l'emploi, c'est l'accompagnement à la parentalité, ça peut être de la médiation de couple, ça peut être plein de choses, l'aide à la préparation des démarches administratives pour le divorce par exemple, l'aide juridictionnelle s'il y a un procès, enfin tout ce genre de choses. Et c'est de l'accompagnement à court et moyen terme de ces personnes-là sur leur parcours judiciaire du moment où elles ont déposé plainte jusqu'à temps qu'elles soient prise en charge, parce que sortie, c'est compliqué, on sait que c'est dur, mais en tout cas prise en charge de façon efficiente par tous les partenaires qui existent sur le département.
On fait des allers-retours avec l'inauguration en octobre, vous m'excuserez. Lors de la venue du coup de Marlène Schiappa, il y a plusieurs initiatives qui ont été présentées à cette dernière, j'en ai noté quelques-unes. Mm-hmm. Donc présentées visant à protéger les jeunes internautes des risques liés au numérique, le projet e-Protect, développé en partenariat avec e-Enfance.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez un peu en parler?
Alors e-Protect, c'est une plateforme d'apprentissage par le jeu qui a été conceptualisée et créée, pensée par la gendarmerie du 78, à l'aide de partenaires bien évidemment, donc e-Enfance et aussi une entreprise qui s'appelle Serious Factory. L'idée était qu'il fallait réinventer notre message vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui on est dans le numérique, les jeunes sont dans le numérique, et c'est vrai que nos présentations sur les dangers des réseaux sociaux étaient peut-être un petit peu vieillottes et avaient besoin de s'adapter à l'évolution de nos jeunes, d'où cette idée. Donc e-Protect, c'est une plateforme d'apprentissage par le jeu qui dure 2 heures. On intervient dans les collèges, donc c'est à destination des 6e. On vient dans les classes avec nos propres tablettes. Les enfants sont mis par groupe de 3 sur une tablette et pendant 2 heures évoluent sur des jeux avec 3 trains de jeu, la théorie de complot, les fake news et la protection des données. Et il y a différents scénarios qui sont envisagés suivant où l'enfant, quand il répond aux questions, ça va l'emmener. Et toujours avec des messages de prévention qui sont livrés derrière, justement pour faire attention comment je navigue en toute tranquillité et en toute bienveillance sur les réseaux sociaux, comment je consulte des informations, la vérification sur plusieurs sources, l'enregistrement d'un mot de passe, qu'est-ce que je mets comme profil quand je m'enregistre sur un réseau social, voilà tout ce genre de choses qui aujourd'hui nos jeunes ont besoin d'être orientés pour naviguer tranquillement.
Les réseaux sociaux, comme vous le dites, ça à double tranchant, il y a ce côté positif où on peut communiquer, on peut apprendre l'information, mais de l'autre côté il y a le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement aujourd'hui c'est un fléau, on peut dire que c'est un fléau.
On intervient et donc la 6e, c'est on intervient même avant dès les CM2 sur les dangers sur les dangers des réseaux sociaux avec la présentation du permis internet, après en 6e avec e-Protect. Et les niveaux supérieurs, bien évidemment, et le cyberharcèlement est quelque chose qui revient très régulièrement dans les établissements scolaires. Les directeurs ou directrices d'établissements scolaires ou CPE nous sollicitent quand il y a des phénomènes de ce genre qui se produisent dans leur établissement pour qu'on vienne faire de la sensibilisation auprès du niveau de classe concerné. Donc peu importe le niveau de classe. Donc là, c'est vraiment un dialogue avec les jeunes sur leur façon de s'adresser à l'autre, sur les... Comment je protège mon image, qu'est-ce que je risque aussi quand je diffuse des images alors que j'ai pas demandé l'autorisation, quand je participe à alimenter sur des commentaires qui viendraient même d'un autre jeune, mais si j'alimente, je suis considéré aussi comme complice, même si je défends. Alors, il y a toutes ces choses-là dont ils n'ont pas forcément notion. C'est le bien vivre ensemble en fait, sur les réseaux sociaux, sur la toile. Ça c'est compliqué parce que Ils n'ont pas cette perception. Les jeunes aujourd'hui sont nés avec Internet. Ils sont nés dedans, donc ils évoluent avec ça au quotidien. Et pour eux, c'est avoir des amis sur Internet, c'est avoir des vrais amis dans la vie. Mais on leur explique qu'il y a deux choses différentes quand même. C'est pas parce qu'on a 3000 abonnés sur sa chaîne qu'on a 3000 amis dans la vraie vie et qui sont là aussi pour nous accompagner au quotidien ou nous aider. Donc ça, on essaye de leur faire prendre conscience, mais c'est assez compliqué quand même. On est sur un phénomène aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur.
Donc du coup, c'est des directeurs, un peu directrices des établissements qui vous contactent alors, c'est
ouais, ça, qui nous sollicitent directement. Ça fait plusieurs années en fait qu'on fait de la prévention auprès des établissements scolaires du département, donc de primaire, collège et lycée. Et quand il y a un fait qui s'est produit, ils nous sollicitent en disant voilà, il s'est produit tel fait sur une classe de 5e, une classe de 4e, une classe de 3e. Nous, on ne va jamais dans la classe où il y a eu le problème, on fait toujours le niveau de classe en entier. Donc s'il y a 8 classes de niveau 5e, par exemple, sur cet établissement, on fera toutes les classes. Voilà, pour pas non plus stigmatiser soit l'auteur ou soit la victime, c'est vraiment pour faire le niveau de classe en entier. Ça, c'est ce qu'on fait et on y tient.
LFL
95.5. C'est la fin de notre première partie. En deuxième, on va continuer à écouter mon échange avec l'adjudant-chef Virginie Roduro autour de cette MPF, Maison de Protection des Familles de Bois d'Arcy. On fait une petite pause musicale, on écoute Gasolina de Tiakola et Ersko et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie d'État et Civil. A tout de suite.
Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
C'est ma gasolina, et mes gasolita, elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina, et mes gasolita, elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. 11:43, je l'ai déconné. Les ennemis me font pas peur. Il faut qu'on frappe midi. J'ai des outils dans le jean. La vengeance veut prendre le dessus. Je coffre ça dans le congélateur. Elle m'attire des ennuis. C'est la recette.
5 à 5, 6 heures, pas à 7. 4 sorties de peau, je suis dans le 16. Faut mettre les dièses avant 07. C'est qu'il est obs qui veut se faire crosser. Gasolina veut sa kermesse. Les potes, les proches, je veux gratter une caisse. Donne-moi le brasseur, donne-moi le 7. 9 mm et tu fais une sieste. Les écoutes au bigo. Pour rester dans l'anonymat. Gasolina atteint un niveau. Ceux qui fument le plus sont les plus pauvres. Et contre ta libido. Guette avant hôtel par petit go. Couleur qui pèse sur nos petits doigts. Je dois la rater sur un autre niveau.
C'est ma gasolina. C'est ma gasolina. Et mes gasolita. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina. Y'a mes gasolina. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. 11:43, je l'ai déconné. Les ennemis me font pas peur. Il faut couvrir à midi. J'ai des outils dans le jean. La vengeance veut prendre le dessus. Je coffre ça dans le congélateur. Elle m'attire des ennuis. C'est la recette
que c'est ce que je fais, ce que j'aime. Puis on veut massa tout ce que j'ai. C'est beaucoup trop noir ce qu'on projette. Rapport la santé, tout s'achète. J'arrache le sol en séquentiel. J'envoie mes prières vers le ciel. Dans l'auto chauffant sous les sièges. Mais l'eau de la cahier sans solfège. Et quand j'entends un rat, la première chose à faire c'est mon penda. Gasolina veut que je prenne sa main. Que je manipule encore trop doucement. Les écoutes au bico. Pour pouvoir rester dans l'anonymat. Je te ramènerai dans un autre niveau. Si t'es ma gasoline. Non. Elle veut que je prenne soin d'elle. Rester c'est pas facile. Une fois qu'on est monté, elle est qu'est-ce qui descendait. Ramène le désangé. Je t'écoute de mes amis.
La considérée comme ma princesse, mais je n'étais pas son roi. Elle apporte toujours des problèmes, même quand on fait bien son rôle. Et des fois, je me sens comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Le shit a qui poussait faire un choix entre l'astuce ou le bad.
LFL
95.5.
Oh,
De retour sur le 95.5 FM, toujours avec moi-même Nicolas Boraski. Si vous venez de nous rejoindre, on démarre la seconde partie d'État et Civil, l'émission qui donne la parole à l'État, les collectivités, les citoyens, pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous, et ce, tous les mercredis à partir de 11h. Ce matin, dans État et Civil, on parle de la MPF, Maison de Protection des Familles de Bois d'Arcy. J'ai pu rencontrer directement sur place l'adjudant-chef Virginie Roduro. On écoute du coup cette deuxième partie. En première partie, on a déjà écouté une partie, un extrait, plus qu'un extrait hein, quand même, on était déjà à peu près 15 minutes si je ne me trompe pas. Donc là, on écoute la fin de cet échange que j'ai pu avoir avec l'adjudant-chef Virginie Roduro et on se retrouve juste après cela pour clôturer l'émission. A tout de suite.
Autre dispositif dont j'ai pu voir la présentation, pour accompagner les jeunes femmes des QPV, donc des quartiers politiques de la ville, dispositif Capital Phi, c'est ça si je ne me trompe pas.
Ouais.
En quoi ça consiste ?
Alors Capital Phi, ça c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, qu'on n'a pas reproduit cette année par manque malheureusement de temps, parce que c'est un projet qui est très beau mais qui prend aussi quand même qui prend du temps. C'est l'accompagnement des jeunes filles sur leur parcours scolaire, sur leur voie qu'elles envisagent de prendre pour leur futur métier. Et du coup, c'est leur offrir un accompagnement sur comment constituer un CV, comment faire un entretien, les questions professionnelles, peut-être de l'immersion aussi, suivant les voies qu'elles choisissent dans telle ou telle entreprise. C'est voilà, pouvoir les accompagner dans leur choix de cursus scolaire. Donc ça, c'est uniquement pour des jeunes filles. Le choix des jeunes filles se fait par Capital Filles, suivant les profils des marraines et des jeunes filles, pour que ça corresponde et que ça aille dans le sens de ce qu'elles ont choisi, bien évidemment.
Vous dites justement que c'est un projet important, ça prend du temps.
Oui.
Au sein de la MPF, en termes d'effectifs, vous en avez parlé un peu juste avant sur les accompagnements, on peut retrouver qui ici ?
Alors ici, vous avez 6 personnels, 6 militaires et 2 intervenantes sociales. Donc on est 8. Bien évidemment, à 8, on ne peut pas tout faire. On fait le maximum, bien évidemment. C'est pour ça que c'est une unité principalement dédiée à la prévention. On sensibilise énormément de jeunes et d'autres publics. Mais tout ça, bien évidemment, ça prend du temps et on est sollicité de plus en plus par d'autres partenaires. Donc on essaye au maximum de répondre à la demande, la priorité étant bien évidemment toujours le côté judiciaire. C'est ce qui va primer si on en a besoin, comme pour par exemple les faits qui pourraient se passer en milieu scolaire ou autre, par rapport par exemple aux victimes de violences intrafamiliales ou les mineurs. Ça sera toujours notre priorité sur le judiciaire.
Justement, le judiciaire, j'allais en arriver, vous avez fait la transition, je vous en remercie. Est-ce que parfois vous retrouvez des personnes qui ont préféré ne pas parler de telle ou telle affaire en se disant que entre le moment où je vais déposer plainte et le moment où la justice va faire son travail, il y a comme un, entre guillemets, un vide pour eux, et elles se disent on est délaissé, on est mis à l'abandon. Ça vous arrive d'avoir des personnes comme ça ?
Alors ce discours-là, on l'entend. On l'entend et c'est aussi pour ça que les MPF ont été créés, justement, c'était pour combler, si on peut dire, un vide qu'il y avait dans cette chaîne. On sait que le parcours judiciaire d'une victime est compliqué. Il est long et le temps de la justice n'est pas le temps de la victime. Il y a un décalage. Les victimes, on comprend, hein, on voudrait que ça aille vite. Très vite, qu'on puisse mettre l'auteur devant la justice et qu'il y ait une sanction qui soit donnée envers cet auteur, mais il y a des délais d'enquête qui sont indérogeables, puisque notre travail demande du temps, bien évidemment, d'avoir des témoins, de faire des recherches, d'aller voir différentes institutions. Et ça, on sait que les victimes ont du mal, puisqu'elles ne comprennent pas forcément ce temps qui est nécessaire, et la justice aussi a son temps, puisque, on le sait, hein, les tribunaux sont aussi... sursollicité, malheureusement, il y a des délais qui sont des fois assez longs. Et pour pallier, entre guillemets, à ça, les MPF sont là aussi pour l'accompagnement. Donc l'accompagnement du moment de la plainte jusqu'au procès, par des contacts réguliers, par des accompagnements, des visites à domicile par nos intervenantes sociales. Dans les Yvelines, on a un maillage qui est assez fort sur tous les partenaires. donc que ça soit les institutions ou les associations. Et donc le dialogue est assez fluide et la victime dans son parcours en fait est mise en relation avec les partenaires dont elle a besoin au moment où elle en a besoin grâce à ce réseau justement qui se connaît et qui connaît les fonctions, le travail de chacun. Ça c'est hyper important de savoir ce que l'autre fait pour pouvoir répondre à un besoin et une demande de la victime.
C'est ça, on est sur un travail de complément, un peu de passerelle entre...
De complémentarité, oui, tout voilà. À fait.
Justement par rapport aux sanctions, quelles sont les sanctions qu'encourent les auteurs de ces violences? Bien évidemment, j'imagine qu'il y a plusieurs degrés.
Il y a une échelle, bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça peut être différent d'une personne à une autre. À savoir si c'est la première fois, s'il y a un effet de récidive, si l'intensité, on va dire, des violences, et ça qui sont déterminées par les certificats médicaux des médecins judiciaires avec la délivrance d'une interruption temporaire de travail, avec un nombre de jours. Donc ça, c'est pareil, les magistrats vont s'y attacher. Donc il y a vraiment un panel, on va dire, de mesures qui peuvent être prises allant, on va dire, du rappel à la loi pour le plus faible, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à l'incarcération pour les faits les plus importants.
Pour les accompagnements, comment on accompagne les hommes et les femmes, du coup puisque voilà, même pour les hommes, il y en a beaucoup qui décide de ne pas porter plainte par souci d'ego, parfois par image, et même des fois, homme comme femme, hein, culpabilité. Comment on arrive à faire comprendre à cette personne-là, bah, on est les victimes et on n'est pas les fautifs de ces histoires-là? Comment on y arrive?
Bah, la problématique, c'est que les victimes, depuis X temps, sont. Enfin, leur auteur les culpabilise. C'est-à-dire que le report de la culpabilité se fait sur la victime. Donc c'est un schéma ancré psychologiquement qui est très fort. Donc nous, on doit déconstruire ce schéma. Et forcément, il est long. Il est pas. On aimerait que ça soit rapide et que la victime en prenne conscience facilement, mais pas du tout. Et ça, on l'entend. Donc c'est aussi là où c'est important le réseau et le maillage, c'est que on a tous le même discours. Peu importe le professionnel qui va parler à cette victime, on aura tous à chaque fois la même façon de parler, que ce n'est pas de leur faute, que rien ne justifie les violences, que c'est l'auteur qui commet des infractions et qui sont punis par la loi. Voilà, on déculpabilise la victime en lui expliquant que ce n'est pas de sa faute. Et souvent aussi, on a les victimes qui disent « oui, mais... je suis pas partie, je suis restée, c'est de ma faute », mais on leur dit aussi que c'est compliqué de partir, on le sait, qu'il y a une montagne insurmontable qui se présente face à ces victimes lorsqu'elles envisagent de partir, si en plus il y a des enfants, ça peut être une déscolarisation, ça peut être casser un schéma familial, c'est retrouver un logement, peut-être aussi s'éloigner de son bassin de vie. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué pour les victimes de partir de chez elles, et on leur fait comprendre qu'elles sont pas coupables de ça et qu'on sait que c'est compliqué. Donc nous, on est là pour les accompagner dans ce cheminement inverse, si je puis dire, que l'auteur a fait depuis longueur d'années sur l'impact psychologique. C'est voilà, leur dire que c'est pas de leur faute, qu'elles n'ont pas commis de délit, c'est pas elles les fautives, il faut pas se tromper de coupable, et que c'est l'auteur qui a commis des infractions, c'est l'auteur qui a enfreint la loi et qui a fait des choses qui ne sont pas qui sont interdites, tout simplement.
Parfois on entend parler du syndrome de Stockholm. C'est sur ce genre de sujet-là ou c'est vraiment quelque chose de différent selon vous?
Non, c'est compliqué. Vous savez, la violence, quelque forme qu'elle prenne, c'est un cycle. C'est un cycle et on appelle ça un cycle pourquoi? Parce que c'est un cercle. Et un cercle, c'est fermé. Donc l'échappatoire est compliqué. Et au milieu de tout ça, il y a quand même, il ne faut pas oublier, c'est un couple. Un couple qui s'aime, qui s'est aimé. En tout cas, il y a un facteur qui est compliqué à prendre en compte pour les extérieurs, c'est ça, ce facteur sentimental. Donc, on est sur un cercle avec différentes phases où il va y avoir cette rencontre de ce couple où tout est beau, tout est c'est l'amour, tout va bien. Et puis après, va se créer un climat de tension où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on sent qu'il y a quelque chose de lourd, et puis va se déclencher la violence psychologique, physique, etc. Et une fois que ce déferlement de violence a eu lieu, et ben il va y avoir ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que l'auteur va dire « oui, je sais que je t'ai fait du mal, mais c'est parce que voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». C'est l'inversement de la culpabilité. Et ensuite va revenir ce qu'on appelle nous la lune de miel, cette période où il y a le pardon, désolé, voilà, je recommencerai plus, je vais me soigner. Et en fait, la victime dans ce cercle-là passe par toutes les phases aussi. Et quand on est dans la phase lune de miel justification, eh ben, elle y croit aussi. Elle espère que c'est la seule fois, que ça sera la dernière fois, que ça ne recommencera pas. Mais on le sait que malheureusement, ça recommencera. Et du coup, sortir de tout ça, c'est pas évident parce que on a aussi voilà des alors quand on dit auteur hein, c'est pas que des hommes hein, c'est des femmes aussi bah, y a un impact psychologique, il y a une emprise psychologique, c'est se dire si je ne peux pas vivre sans toi, je ne pourrais rien faire si tu t'en vas, enfin voilà, il y a vraiment il y a des mots hein, qui sont là et qui font que l'emprise est très très forte et que du coup ce qui explique que les victimes ont du mal à s'en sortir.
Voilà, c'est important ce que vous dites, justement, que les violences conjugales intrafamiliales, c'est pas seulement des coups physiques, mmh. on est aussi sur le plan psychologique, il y a vraiment une emprise psychologique parfois. Ouais.
Et c'est souvent que ça commence par l'emprise psychologique, qui peut après, ou non, enchaîner par des coups. On a différentes formes de violences, hein. Donc on a la violence psychologique, verbale aussi, on a la violence physique, sexuelle, économique, administrative, on a aussi des violences religieuses qu'on oublie parfois, et la cyberviolence qui existe aussi dans les violences intrafamiliales et conjugales. Donc toutes ces formes-là existent, et bien souvent, même si les victimes ne s'en rendent pas compte, c'est d'abord la violence psychologique, l'emprise, l'isolement de la victime, de ses proches et de sa famille, pour pouvoir justement la rendre complètement dépendante de son auteur.
Alors pour les auditeurs, auditrices et FM qui ne sont pas présents avec nous, on est dans une pièce assez particulière par rapport à l'accompagnement des enfants, notamment.
Oui.
Comment on arrive à accompagner un enfant qui, parfois, ne réalise pas, hein, par rapport à son âge, hein, bien sûr, que ce qui est en train de se passer n'est pas normal envers un membre de sa famille-là? Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que cette salle où on est, là, c'est une salle d'entretien mineur, hein, qu'on appelle une salle Mélanie, en référence à la première enfant qui a été entendue sous un format particulier, c'est-à-dire avec un protocole international. Les enfants, très justement, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils subissent ou de ce qu'ils voient. Parce qu'on ne fait pas que les mineurs victimes, on fait aussi les mineurs témoins, soit dans le cadre familial ou en dehors du cadre familial. On les accompagne au mieux, on essaye de les accompagner au mieux en tout cas, du moment où on a libération de la parole d'un enfant qui dévoile un fait, soit dans le cercle familial, soit à l'école. C'est généralement les deux lieux où l'enfant dévoile, eh bien, on le prend en compte, comme les auditeurs ne peuvent pas le voir ici, mais vous avez pu le voir, on a une salle qu'on appelle de mise en confiance, où là, c'est dédié vraiment à l'enfant, où il y a des jouets, il y a des livres, il y a des coloriages, il y a vraiment plein de choses. On n'est pas dans une structure qu'on peut connaître d'une gendarmerie ou d'un commissariat classique. Et une fois qu'on est rentré en confiance avec cet enfant, on lui explique qui on est. On est en tenue, hein, bien évidemment, on lui explique qui on est, notre travail, qu'on le rassure aussi, qu'on n'est pas un gendarme qui met en prison, parce que souvent, c'est le... dans l'éducation, on dit si tu es passage, les gendarmes vont venir, mais là, c'est vraiment sur un tout autre portage, on est là en termes de protection et de bienveillance. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un entretien. Donc, c'est pas une audition hein, avec un ordinateur dans un bureau. C'est vraiment un entretien. On parle l'un en face de l'autre et on le laisse parler. On le laisse parler. Et lui, il nous explique, l'enfant, ce qu'il a vécu avec ses mots. Les enfants sont sans filtre. Donc, ils nous délivrent leur message. Alors, des fois, on a l'impression sans émotion, mais c'est qu'ils ne connaissent pas l'émotion à mettre sur ce qu'ils vivent. Parce que leur psychique n'est pas en capacité de comprendre, notamment pour les infractions à caractère sexuel. Un enfant de 5-6 ans n'a pas cette capacité à comprendre tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui pourrait être lié à la violence sexuelle, au plaisir sexuel, etc. Donc il nous délivre son message d'une façon tellement fluide, avec des mots et des situations parfois très, très compliquées à entendre. Mais c'est ça aussi l'avantage d'avoir des personnels formés à ce protocole, donc le NICHD, sur l'entretien des mineurs dans un cadre vraiment très bienveillant et sans pollution de la parole, surtout.
D'accord, justement j'avais parlé des formations, mais du coup vous en êtes arrivé directement. Sur les enfants, il y a des préventions qui sont faites en amont dans les écoles, donc là vous avez parlé des collèges avant pour les réseaux sociaux. En règle générale, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi.
Oui, on commence en primaire avec les parties intimes, Voilà, déjà, qu'est-ce qu'une partie intime ? Personne n'a le droit de toucher la partie intime. On parle de ça. On parle aussi de la maltraitance infantile. On est vraiment sur les prémices. Hein. Mais c'est leur expliquer qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Voilà, que à la maison ou ailleurs, il y a quelqu'un qui touche les parties intimes sans raison nécessaire ou médicale, va-t-on dire, c'est pas normal. Que un parent qui fâche tout le temps, qui violente tout le temps, pour rien. Alors je dis pas qu'il y a des raisons, hein, mais pas parce qu'il a oublié de ranger sa chambre ou il a une mauvaise note, mais pour rien en fait, le parent est maltraitant, c'est pas normal aussi. Donc on les amène aussi à ce cheminement de se dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Donc nous, au niveau de la prévention des mineurs, on en fait par rapport aux établissements scolaires, mais on en fait aussi auprès des adultes qui accueillent des enfants. C'est important aussi de pouvoir les prévenir sur ces violences sexuelles et sexistes qui existent sur les mineurs.
D'accord, on arrive sur la fin de l'émission. Pour les personnes qui sont victimes ou les témoins peut-être de personnes victimes, les gestes à faire tout simplement.
Déjà, c'est montrer à la victime qu'on est présent et qu'on est là au besoin. Déjà, savoir que je ne suis pas seule. En tant que victime, que j'ai mon voisin, j'ai ma sœur, j'ai je ne sais pas qui, j'ai... Et là, a compris et peut m'aider en cas de besoin. Déjà, ça, c'est important. Ensuite, bien évidemment qu'il ne faut pas garder ça pour soi. On ne peut pas, donc, soit informer les forces de l'ordre si on peut. On a aussi plein d'outils aujourd'hui. On a le 3919 sur lequel on peut discuter avec un interlocuteur. On a la plateforme des violences sexuelles et sexistes, un chat en ligne, sur lequel un témoin peut dire, voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, je pense que c'est pas normal, peut anonymement, parce qu'il n'y a pas d'obligation de donner son identité, dire ce qui se passe, dans telle ou telle maison ou dans telle ou telle famille, que ça soit pour les adultes, même pour les enfants. On a le 119 aussi pour l'enfance en danger. On a aussi le numéro, le 114, pour les personnes qui ne pourraient pas s'exprimer verbalement, peuvent par SMS envoyer un message qui sera relayé aussi aux forces de l'ordre. Voilà, il y a tout un panel maintenant qui fait qu'on ne peut plus se taire aujourd'hui.
Ok, super. Merci à l'adjudant chef Roduro.
Merci.
LFL
95.5.
De retour sur le 95.5 FM, du coup malheureusement c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve, merci tout d'abord déjà à l'adjudant-chef Virginie Roduro d'avoir répondu à toutes mes questions autour de cette MPF, Maison de Protection des Familles, qui se trouve, je le rappelle, à Bois d'Arcy. On clôture du coup cette émission-là, vous les auditeurs et auditrices de l'FM, ne vous en faites pas. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11h, pour un nouveau numéro d'État Civil. En attendant, vous restez bien à l'écoute sur 95.5 FM pour tout savoir sur l'actualité du moment. Dans les Yvelines, pas de soucis, restez bien à l'écoute car vous allez retrouver Akima Aya et la pause actuelle à midi et à 13h pour faire le plein d'infos locales. Pour la fin de l'après-midi, de 16h à 19h, vous pourrez retrouver l'émission Le Live présentée par Alice. Elle va vous accompagner et vous faire écouter les sons qui marchent le plus en ce moment. Et enfin, pour finir votre journée comme il se doit, de 20h à 22h, pour les vrais fans de notre rap français adoré, Mallory et son émission du Rap au Mic vous font découvrir les talents de demain. Une émission 100% rap français, donc comme tous les mercredis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'LFM.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.